Bonjour à tous et à toutes. Jésus est ressuscité. Merci. C'est la salutation orthodoxe. Voilà, qu'on apprécie beaucoup. Donc avant que de commencer le message, nous allons prier. Seigneur Jésus, on vient de confesser que tu es ressuscité. C'est-à-dire que tu as été glorifié. Et cette gloire nous fascine parce qu'elle représente l'essence même de la beauté divine qui habite en toi. Cette beauté que tu as voilée pour un temps sous la chair et qui est, depuis ta résurrection, pleinement révélée. Et tellement révélée que même tes disciples qui t'avaient connu selon la chair ont d'abord eu du mal à te reconnaître. Il a fallu un geste, il a fallu une parole de ta part, Seigneur, pour que leurs yeux s'ouvrent. Et c'est vraiment ce qu'on te demande ce matin. Il a été rappelé que si tu n'ouvres pas notre intelligence, alors nous ne comprenons pas les Écritures. Tu as promis également que celui ou celle qui garde ta parole, c'est ainsi qu'il montre, qu'elle montre, qu'il t'aime, qu'elle t'aime. Et ta promesse, c'est alors que tu te montreras. Et te montrer, c'est-à-dire te montrer dans cette gloire dont nous parlons, qui nous captive, qui nous charme, qui attire notre regard, mais également cette gloire qui nous transforme de l'intérieur, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'être rendu à ton image, que de contempler cette gloire divine. Donc aide-nous, Seigneur, ce matin. Comme je le dis souvent, un pécheur parle à des pécheurs. Nous sommes tous devant toi à tes pieds, et que ta parole puisse toucher chacun des cœurs. Amen. J'ai appris qu'Abdel a vendu la mèche. Il vous a donné ce que serait le titre de mon message ce matin. Ce message, en fait, il résulte d'un échange que j'ai eu avec un frère il y a quelques semaines. Nous avons parlé de la création de l'homme, de la femme, Jésus, l'Église. Et à un moment, nous en sommes arrivés à la conclusion que la femme était le but même de la création. La femme est le but même de la création. Alors évidemment, c'est provocateur pour les frères et hommes qui sont ici, mais je vais vous montrer ça par l'Écriture. Et vous allez voir que ça va déboucher sur, évidemment, l'épisode de la croix, qui va être central pour le message de ce matin, la relation entre la croix et la résurrection. Mais également, il y aura une adresse pour les femmes et surtout en conclusion pour les hommes. Donc, je vais commencer par une question. La question est la suivante. Alors, ceux qui connaissent déjà la réponse, parce qu'on en a parlé hier soir, sont priés de garder le silence. Quand est-ce que l'Église a été créée? À partir de quand l'Église existe? Je parle de l'Église au sens de la Nouvelle Alliance, parce qu'on pourrait dire depuis Abel. Mais quand, depuis quand est-ce que l'Église existe? Voilà. La réponse traditionnelle, c'est de dire la Pentecôte. Eh bien, c'est intéressant de voir que les pères de l'Église considéraient que l'Église, elle est née à la croix et non pas à la Pentecôte. Pourquoi? Et en fait, c'est le texte de mon message pour ce matin. Dans Jean 19, versets 33 à 35, donc ceux qui étaient autour de la croix, lorsqu'ils vinrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent point les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Voilà ce que disaient les pères de l'Église, par exemple Jean Chrysostome, 4e siècle. De même qu'alors, Dieu a pris de la chair du côté d'Adam pour former la femme, ainsi le Christ a donné le sang et l'eau de son côté pour former l'Église. Comme Dieu avait tiré Ève du côté d'Adam, ainsi le Christ a formé l'Église de son propre côté, transpercé par la lance. Augustin va dire de la même manière, le côté du Christ endormi sur la croix a été percé pour que l'Église sorte de là. Vous voyez, on dit effectivement, plutôt en Occident, l'Église est née le jour de la Pentecôte, Mais les pères de l'Église, dont la mentalité est plutôt orientale, disaient non, l'Église, elle est née à la croix, lorsque le flanc, le côté de Jésus, a été percé. Et ça renvoie évidemment à l'épisode de la Genèse, de la création d'Ève. Dans Genèse 2, 21 à 23, je lis ce passage. L'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Alors vous savez que dans la Bible, le sommeil est un euphémisme pour la mort. Et l'homme s'endormit. Dieu prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers la femme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et donc on voit assez bien le parallèle. Adam qui est endormi, Jésus qui est endormi, hein, c'est l'image que Jésus va prendre dans l'épisode de Lazare, dans Jean 11. Jésus dit aux disciples, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Et donc les disciples se sont dit, mais s'il dort, ben ça va, c'est qu'il est en train de guérir. Et Jésus leur dit, non, non, il est mort, mais je vais le réveiller. Vous voyez, dans cette image de la mort est l'image de l'endormissement. De la même manière, Dieu va prendre une côte d'Adam. Et de la même manière, il a fait percer le flanc de Jésus pour qu'on sorte le sang et l'eau dans cet ordre. Je vais beaucoup insister là-dessus après. Et enfin, quand il est dit « os de mes os », eh bien, nous sommes les membres de son corps. Nous devenons un avec lui. Autrement dit, et c'est ça qui est important, l'homme a été tiré du sol. Mais la femme a été tirée de l'homme. La femme, c'est la créature noble dans le plan de la création de Dieu. Elle ne vient pas du sol. Et d'ailleurs, que restera-t-il de l'homme dans le monde qui vient? Il n'y aura plus qu'un seul homme. C'est qui? C'est Jésus. Et il n'y aura plus qu'une seule femme. C'est qui? C'est l'Église. Et que serons-nous alors? Dans le monde qui vient, dit Jésus, Matthieu 19, il n'y aura plus ni homme ni femme. Dans l'original, autant grec qu'araméen, il n'y aura plus ni mâle ni femelle, qui renvoie à la Genèse. Mais nous serons tous comme des anges devant Dieu. Donc, ni homme, ni femme, ni mâle, ni femelle. Le seul homme qui restera, c'est Jésus. Mais Jésus n'est pas tiré du sol, il est tiré du ciel. Et l'Église, la femme, finalisé, le but de la création de Dieu ne viendra pas de l'homme tiré de la terre, mais de l'homme du ciel, d'où jaillira l'Église. Le fil conducteur de mon passage ce matin sera de Jésus, du flanc de Jésus, sorti du sang et de l'eau. Le sang et l'eau. Et Jean, quand il voit cela, il y voit un signe surnaturel. Pourquoi? Parce que normalement, lorsque quelqu'un est mort, lorsque vous le percez, le sang ne jaillit pas. Pourquoi? Parce que le cœur a cessé de battre. Or là, Jean voit de sang et de l'eau s'écouler du sein de Jésus. Et il dit, là, il y a un signe. Il y a quelque chose qui est important. Alors pourquoi cet ordre, le sang et l'eau? Le sang, évidemment, renvoie au pardon des péchés et par conséquent, à la repentance. Dans Matthieu 26, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Ça commence par là, la vie chrétienne, par le sang, c'est-à-dire par la repentance. Et comme le dit Hébreux 9, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc ça commence par le sang. Mais ça ne s'arrête pas là. Avec le sang vient ensuite l'eau. Et l'eau renvoie dans la parole au baptême d'eau et baptême d'esprit. Parce que les deux, quand on examine dans le livre des Actes, sont les deux revers de la même médaille. Vous noterez que le baptême d'eau et d'esprit vient après la repentance. Tout ne se fait pas sur un claquement de doigts. J'y reviendrai. Jean 7, des fleuves d'eau vive couleront du sein de Messie. Et là, il était question de l'écriture, de l'esprit, évidemment. Et évidemment, on a l'événement de l'acte de la Pentecôte, le déversement de l'eau vive d'après la prophétie de Joël. Autrement dit, sans le sang de la croix, il n'y a pas l'eau vive de la Pentecôte. Combien nous aimerions expérimenter la Pentecôte en évitant le sang de la croix, en évitant la repentance, en évitant l'union en Jésus en sa mort. Et nous voulons tous être unis avec Jésus en sa vie. Vous voyez ? On aime l'eau, on ne veut pas le sang. Pour Jésus, il est allé de l'eau du baptême, au début de son ministère, au sang de la croix. Pour nous, nous devons commencer par le sang de la croix pour expérimenter ensuite l'eau vive. Vous voyez ? Le chemin est à l'inverse de celui de Jésus. Et donc de la repentance à la marche par l'Esprit pour nous. Voilà, ça c'est le point de départ du message de ce matin. Le sang et l'eau, et il faut les deux, et c'est ce qui donne la vie à l'Église, qui sort du côté de Jésus. Donc l'Église est née de la croix. Comme je l'ai déjà dit, la femme, c'est la créature noble. C'est la finalité de la création. Alors évidemment, je suis en train d'anticiper des choses que j'ai déjà dites avant, donc je dois avancer un peu. Voilà. Pour résumer, donc, il ne restera qu'un seul homme, le Messie Jésus, et une seule femme, la Jérusalem céleste. Et nous serons tous à l'image du Fils, à la fois frères et sœurs, quelque part, du Messie, mais à son image en tout cas. Il n'y aura plus cette distinction entre mâle et femelle. Donc quand on comprend ça, on ne peut pas traiter la femme comme une serpillière. Vous voyez ? En fait, c'est la créature noble et c'est la finalité de la création de Dieu. Il faut en être conscient. Alors qu'en est-il dans le monde présent ? Et ça c'est bien beau, c'est le monde qui vient. Il n'y aura plus qu'un seul homme, il n'y aura plus qu'une seule femme. Mais qu'en est-il dans le monde présent ? Il y a d'abord ce que l'on appelle, en termes savants, l'ordre créationnel. Dans 1 Corinthiens 11, il est dit que Dieu est le chef ou la tête du Messie. Le Messie est le chef ou la tête de l'homme. Et l'homme est le chef ou la tête de la femme. Ça veut dire que l'on a trois rapports là. Dieu le Père avec le Fils avec l'homme, l'homme avec la femme. Et ça, ça nous enseigne quelque chose de très important. La femme n'est pas au-dessous de l'homme. Elle est l'égale de l'homme. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que le Fils est l'égal du Père. Si le Fils est l'égal du Père, dans l'ordre créationnel dont je viens de parler, c'est que la femme est l'égale de l'homme. Par contre, le Père et le Fils n'ont pas la même fonction au sein de la divinité. Ils sont égaux, mais distincts, complémentaires, et chacun avec sa fonction. Donc ça nous dit ce qu'il en est pour le couple. Les deux sont égaux, mais distincts, malgré tout ce qu'on veut nous dire aujourd'hui, que ça serait interchangeable, non ? Ils sont distincts, complémentaires, mais avec des fonctions différentes. C'est donc, ça s'appelle l'ordre créationnel. Dans Galates 3, Paul va dire « Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni mâle ni femelle, car vous êtes tous un en Jésus. » Donc on est dans le monde actuel dans une espèce de tension, comme on le dit, entre le déjà et le pas encore, des réalités spirituelles qui nous portent vers l'avant, un seul homme, une seule femme, et une réalité présente, donc où il y a encore des distinctions de fonctions. Et c'est là que, souvent, voilà, on insiste beaucoup sur la soumission de la femme. Hein, et on brandit des versets bibliques pour exiger la soumission de la femme. Par exemple, 1 Corinthiens 14. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises, selon ce que dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leurs maris à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et certains vont brandir ça et exiger, mes sœurs, que vous vous taisiez dans l'église. Que vous ne faites rien dans l'église. C'est interdit. Vous devez être soumises. On oublie juste le contexte de Corinthiens où Paul devait régler un véritable bazar et il devait remettre de l'ordre. Pour un temps, il met de la discipline dans l'église. Vous voyez ? Parce que quand on lit par ailleurs l'écriture, de quoi se rend-on compte ? La femme, elle prie. Acte 1, 1 Corinthiens 11. Elle chante, elle partage, elle témoigne, elle prophétise. Acte 2, acte 21, 1 Corinthiens 11. Elle a même le ministère du diaconat, Romains 16. Et enfin, elle enseigne les enfants, parce que vous ne trouvez pas quand même étrange que d'un côté on dise que la femme ne doit pas enseigner dans l'église, et de l'autre, on leur confie généralement l'enseignement des enfants dans l'école du dimanche. Attendez, c'est pas le plus grand des ministères que celui que d'enseigner les enfants. Vous voyez qu'il y a une contradiction là, quelque part. Donc il est facile, et j'y reviendrai par la suite, de prendre un passage de l'écriture, 1 Corinthiens 14 que j'ai lu, et on impose le silence à la moitié de l'assemblée. C'est un premier extrême. Évidemment, il y a un autre extrême. C'est quand la femme veut prendre la place de l'homme. Et là, effectivement, dans la parole, il y a une restriction quant au rôle de la femme dans l'assemblée. Ce n'est pas simplement enseigner les enfants. C'est enseigner pour prendre autorité sur l'homme. Donc il va falloir que je développe exactement ce que cela veut dire. Dans 1 Timothée 2, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre d'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Mais dans quel cadre? Paul a envoyé Timothée à l'église d'Éphèse parce qu'il y avait des problèmes à Éphèse. Et il y avait en particulier des femmes qui prenaient l'ascendant sur l'homme. Comment? Comme il est dit là, en enseignant et prenant autorité. Et là, on pourrait dire, mais c'est comme à Corinthe, c'était un problème local et il fallait que Paul règle le problème. Sauf que là, il va pas faire appel à un problème à Éphèse, il va dire car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite, s'est rendue coupable de transgression. Ça veut dire quoi ça? Que s'est-il passé dans le jardin d'Éden? Adam avait été mis dans le jardin d'Éden pour le garder et le cultiver. Mais le garder de quoi? Le garder du serpent. Le serpent ne devait pas entrer dans le jardin d'Éden. C'est à Adam qu'il incombait de confronter le serpent et de le mettre dehors. Jamais Adam n'aurait dû permettre à la femme d'être confrontée directement au serpent. Donc la faute, ce n'est pas Ève. La faute, c'est celle d'Adam. Comme il est dit dans Romains 5, c'est par Adam que le péché est entré dans le monde. C'est pas par Ève. Il n'a pas gardé le jardin d'Éden. Et ça veut dire quoi? Examinons ce qui s'est passé. Ève a discuté avec le serpent, elle a rajouté et retranché à la parole que Dieu avait donnée à Adam. Et le serpent s'est engouffré. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Le serpent vient, il tord la parole, et que fait l'homme? Est-ce que l'homme est capable de répondre au serpent en disant « Il est écrit ». Souvenons-nous que le ministère de Jésus a commencé là. Ça a été le premier test. Dès qu'il est sorti de l'eau remplie de l'Esprit, l'Esprit l'a conduit dans le désert pour y être éprouvé par le serpent. Et le serpent l'a tenté avec 3 tentations, je ne vais pas entrer dans les détails, mais à chaque fois Jésus a répondu « Il est écrit ». Il n'a pas discuté avec le serpent, il n'a pas dialogué avec le serpent, il a juste cité l'Écriture. Voyez, comment voulons-nous que la parole de Dieu devienne épée de l'esprit, Éphésiens 6, si nous y rajoutons nos raisonnements, nos conceptions, hein? Plus on rajoute la pensée humaine à la parole de Dieu, plus l'esprit se retire, parce que l'esprit n'approuve pas la parole de l'homme, il n'approuve que la parole de Dieu. Et si ça a été un test pour Jésus avant qu'il ne soit revêtu de la puissance de l'esprit et commence son ministère, eh bien, à combien plus forte raison c'est le test pour nous? J'y reviendrai après, parce que c'est ce qui se passe au départ de la conversion, lorsque nous sommes appelés. D'emblée, le combat s'engage. Est-ce que je garde la révélation que Dieu vient de me faire au moment de l'appel? Ou est-ce que je commence à écouter les enseignements, les théologies, les confessions de foi, les traditions que l'on veut m'imposer dans l'Église et qui émoussent et affaiblissent l'œuvre de la parole de Dieu en moi? Ça commence au moment même de l'appel. Le combat s'engage là. Est-ce que je garde la parole et par là je montre que je l'aime? Ou est-ce que je suis sensible à la pression, aux traditions, aux enseignements, aux théologies, aux systèmes et tout un tas de choses qui en fait étouffent la parole de Dieu? Et après on s'étonne que l'on n'avance pas dans la vie chrétienne. Donc, entre deux extrêmes pour la femme, de strictement rien dire, l'autre extrême, c'est la femme prend la place de l'homme dans un rôle très précis qui ne lui incombe pas. Et c'est juste le face-à-face avec le serpent. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsqu'une fausse doctrine essaye de rentrer dans une église, lorsque des nouvelles vagues, des nouveaux mouvements mettent le bazar dans l'église, il faut revenir, il est écrit. Et ça, c'est le rôle de l'homme. C'est en ce sens que la femme ne peut pas le faire. C'est le rôle de l'homme que de dire la parole et de mettre le serpent dehors. Donc vous voyez que le problème dans les églises, ce ne sont pas les femmes, ce sont les hommes. Ils ne prennent pas leur rôle face au serpent. Et en ce sens, la femme, par sa soumission, devient le modèle et le rappel à la conscience de l'homme de ce que devrait être la position de l'homme face à Jésus, c'est-à-dire soumis. Donc voyez mes sœurs, vous avez un rôle en ce sens-là. Vous rappelez constamment par votre attitude ce que devrait être celle des hommes à l'égard du Messie. Parce qu'il est bien beau de dire « Femmes, soyez soumises à vos maris !» Je pense que quand le mari n'est pas soumis à Christ, ça ne doit pas être évident. Donc le combat n'est pas simple. Donc comme je l'ai écrit, la femme prophétise dans le monde présent et par sa soumission, elle est un exemple de ce qu'est le devoir de l'homme à l'égard du Messie. Et vous voyez que aujourd'hui nous sommes en un temps où les femmes veulent prendre une place dans l'Église, mais au-delà du cadre de l'Écriture, dans une forme d'égalitarisme qui est très contemporain. Voilà, et par là, elle transgresse la parole de Dieu, puisqu'elle va faire quelque chose qui ne lui incombe pas. Et elle va s'exposer au serpent pour laquelle elle n'est pas équipée. Le problème, c'est les hommes sont-ils équipés? Donc l'égalitarisme détruit en fait l'égalité, c'est-à-dire la complémentarité entre l'homme et la femme et la fonctionnalité de chacun dans l'Église. Vous voyez? Donc chacun doit trouver quelle est sa place et sa fonction. Donc ça, c'est pour la femme. Vous voyez, je ne dirai pas plus de la soumission de la femme, sinon que, comme je l'ai dit, elle prophétise en fait par sa soumission même ce que devrait être la soumission de l'homme à l'égard du Messie. Parce que n'oublions pas que, à l'égard du Messie, et je mets des guillemets, les hommes, nous sommes comme la femme. Nous devons lui être soumis en tant que membre de son corps qui est l'Église, qui est l'épouse du Messie. Et je pense que le vrai problème, il est là. D'où la partie suivante. Qu'en est-il de la soumission des hommes au Messie ? On pense d'abord un passage qui est frappant. Il est frappant de par la réaction de Jésus. C'est dans Luc 7, le centenier a un serviteur qui est malade. Et il envoie d'abord les chefs de la synagogue pour dire à Jésus, mais ne viens pas chez moi, je suis indigne, mais dis une parole, mon serviteur sera guéri. Et ensuite il envoie ses amis qui vont avoir le même message à Jésus. Ne viens pas dans ma maison, je suis indigne, mais dis une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va, et il va. Je dis à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Et là c'est étonnant. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, un centenier romain, mais qui avait fait du bien, il avait aidé à la construction de la synagogue. Donc les juifs qui étaient envoyés vers Jésus, « Ah mais tu sais, il faut que tu le guérisses le serviteur parce qu'il nous a vraiment fait du bien. » Comme si c'était la motivation pour laquelle Jésus allait guérir le centenier. Il dit « Non, non, c'est pas parce que le centenier a fait du bien et a bâti la synagogue que je vais guérir le serviteur. C'est à cause de sa foi. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Et pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Parce que le centenier disait, je suis soumis à une autorité supérieure et je donne des ordres à mes inférieurs. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il n'y a pas d'autorité sans soumission. Et parce que le centenier a reconnu que Jésus était soumis à Dieu, du coup, il savait que quelques paroles que dirait Jésus, Dieu l'exaucerait et l'accomplirait. Il n'y a pas d'autorité sans soumission. C'est pas ça le problème de l'homme. On aime bien faire le chef dans l'église, mais se soumettre, c'est un peu plus compliqué. Pour l'homme, ça se résume à la chose suivante. Et je vous recite un verset que je cite quasi à chaque message, et j'en suis désolé. Mais aujourd'hui, il est particulièrement pertinent. Celui qui a ma parole et qui la garde, c'est celui qui m'aime. Et Jésus termine en disant, et je me montrerai à lui, à elle. Il se montrera comment? C'est manifestement pas au moment de l'appel, parce que pour garder la parole, il faut bien que j'ai été appelé. Et alors je me mets à lire la parole, comme on l'a encore entendu hier. Des personnes qui viennent nouvellement à la foi dévorent la Bible. Mais ça, ce n'est que le départ de la vie chrétienne. Et en gardant la parole, on montre qu'on aime Jésus. Et en aimant Jésus, il est dit « Je me montrerai ». Le verbe est au futur. Et il montrera quoi? Il se montrera comme le ressuscité. Il se montrera comme le glorieux. Il se montrera comme le fils du Dieu vivant. Il se montrera comme le divin. Il se montrera comme celui qui captive notre regard, qui nous charme, celui qui nous subjugue par sa beauté. C'est comme ça que Jésus se montre. Il ne se montre pas plus dans son humanité seule, il se montre dans sa gloire. Vous voyez que ce n'est pas au moment de l'appel. Gardez la parole, ça veut dire quoi? Je suis sûr que si j'interrogeais chacun ici, chacun me dirait « je garde la parole ». Si je vais dans n'importe quelle église et que je pose la question, tous vont me dire « mais nous gardons la parole ». Vous voyez? Mais ça veut dire quoi garder la parole? Je prends un exemple. La parole, sur quelque sujet que ce soit, il y a plusieurs passages qui vont aborder tel ou tel sujet. Donc, pour aller vers des exemples pour que ça soit concret. L'exemple le plus simple pour commencer, c'est Jésus lui-même, dans le désert. Le serpent vient et il dit « Jette-toi du haut de ce temple, car il est écrit, Dieu enverra des anges afin que tes pieds ne heurtent point le sol. » Le diable est parfaitement capable de citer les Écritures. Vous voyez? Mais si je m'en arrêtais là, je vais me jeter du haut du temple pour montrer que j'ai foi en Dieu et qu'il va envoyer ses anges pour que mes pieds ne heurtent point. C'est comme ça que dans certaines églises, on lâche des serpents dans l'église parce qu'il est écrit que les serpents, même s'ils mordent les croyants, ils ne seront pas... Voilà, le nombre de chrétiens qui sont morts comme ça. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Jésus répond, oui, mais il est également écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Donc le diable est capable de citer l'Écriture, mais il ne va en citer que la moitié. Vous voyez? Par exemple, alors maintenant je vais être polémique. Par exemple, le parler en langue est le signe évident du baptême de l'Esprit. Donc, si je ne parle pas en langue, c'est que je ne suis pas baptisé de l'Esprit. C'est bien la logique. Parler en langue, donc je suis baptisé de l'Esprit, donc je parle en langue. Pour les quelques scientifiques qui sont dans la salle, la proposition équivalente, c'est je ne parle pas en langue, donc je ne suis pas baptisé de l'Esprit. Vous voyez? Et je manipule ça et je commence à mettre la pression sur les gens. Et je l'ai vu, je vais donner des exemples après, puisque je suis passé par un milieu pentecôtiste, où la pression a été mise sur les jeunes convertis jusqu'à ce qu'ils parlent en langue. Jusqu'à ce qu'ils se conforment à la tradition de mon église, parce que sinon vous vous rendez compte. Donc j'instrumentalise l'autre afin qu'il valide ma propre tradition. On est bien loin de la parole de Dieu qui nous dit, 1 Corinthiens 12, « Tous parlent-ils en langue ?» C'est une question rhétorique, parce que la réponse c'est non. Tous ne parlent pas en langue. C'est un don spécifique, dans un cadre spécifique. 1 Corinthiens 14 le développe, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais tous ne parlent pas en langue. Alors à partir de là, on nous dit, ah oui, mais il y a le parler en langue, signe du baptême, et puis il y a le don de langue, et on commence à entrer dans des raisonnements, on coupe les cheveux en quatre, alors que non, tous ne parlent pas en langue, et il n'y a qu'un seul parler en langue dans l'Écriture. C'est toujours des langues humaines, compréhensibles. C'est pas du charabia que nous ne comprenons. Donc voilà. J'affirme quelque chose, mais la parole me dit autre chose. Et maintenant, je mets les deux ensemble. Oui, dans certains cas, le baptême de l'esprit s'est accompagné d'un parler en langue, acte 2. Ou acte 9, dans la conversion de Corneille. Mais tous ne parlent pas en langue, et ce n'est pas le signe du baptême de l'esprit. Il suffit d'étudier un peu l'écriture. On a le même problème avec l'articulation entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Et ça, je l'ai encore entendu de mes oreilles il y a quelques temps, vraiment très très peu. On accentue la souveraineté de Dieu en citant les Écritures, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire », et on prend tout un tas de passages comme ça pour dire, voilà, de toute façon, tout vient de Dieu. Mais tout vient tellement de Dieu que c'est Dieu qui fait tout. Et Dieu fait tellement tout que j'en deviens passif et que, voilà, je commence à intégrer dans ma tête la notion d'un Dieu fataliste qui est au début, au milieu et à la fin, et moi je n'ai plus rien à faire. Et j'ai tellement plus rien à faire que j'en deviens passif, j'en deviens statique, j'en deviens paralysé. C'est-à-dire que là encore, dès le début de la conversion, voilà, je suis ligoté par des chaînes partout et je deviens fataliste. Vous voyez ? Et après on s'étonne, là encore, que la vie ne soit pas transformée. On est tellement écrasé par la souveraineté de Dieu, par le fatalisme qui fait que l'élection m'est tombée dessus et que de toute façon je peux rien y faire, c'est comme ça que on en est paralysé dans notre faim, dans notre soif, dans notre quête de Jésus. Et on oublie que c'est une chose que de sortir du désert, de l'Égypte. Mais il y a un désert à traverser avant d'aller à Canaan. Vous voyez ? Et là, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est directement sauter de l'Égypte à Canaan. On court-circuite complètement l'épreuve du désert, et l'épreuve de la faim, l'épreuve de la soif, l'épreuve où le Seigneur nous dépouille le sang, le moment où il va nous attacher à lui et nous nous attachons à lui. Vous voyez ? Ça, c'est le désert. Relisons le livre du Deutéronome. Et ce n'est qu'à l'issue de ça que nous entrons dans Canaan, que nous traversons le Jourdain et que nous goûtons à l'eau vive. Le sang à la sortie du désert, de l'Égypte, mais l'eau vive en entrant dans Canaan. Le sang et l'eau. Et inversement, d'autres vont mettre tellement la responsabilité sur les épaules de l'homme que dès que les jeunes se convertissent, allez, maintenant, ça y est, t'as cru en Jésus, va dans la rue, il faut aller évangéliser, il faut aller faire ceci, il faut aller faire cela. Et on lance les jeunes convertis dans l'activisme, dans plein d'actions, et on oublie qu'avant de faire, il faut être. Et pour pouvoir faire selon Dieu, il faut apprendre à écouter la voix de Dieu. Sinon, on est comme quelqu'un avec une épée, on balère, et on fait des tas de gestes et des tas. Et on s'étonne après qu'au bout de quelques années, les jeunes chrétiens s'épuisent, se désillusionnent. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont tellement été préoccupés à faire des tas de choses qu'on leur a demandé de faire, qu'ils en oublient que le moteur de la vie chrétienne, c'est la communion avec Jésus, et que tout doit découler de l'union avec Jésus en sa mort et en sa vie. S'il n'y a pas d'union avec Jésus en sa mort et en sa vie, il n'y a pas de marche par l'Esprit. S'il n'y a pas de marche par l'Esprit, ce sont nos œuvres que nous accomplissons, ou plutôt celles de l'Église, mais ce n'est pas celle de Dieu. Combien de fois on dit « Oh Seigneur, nous avons tiens, tel plan et telle entreprise à faire, oh Seigneur, bénis ce que nous allons faire ». On demande à Dieu de bénir notre propre volonté. On peut attendre, hein. Plutôt que de s'asseoir et dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Parce que si la volonté de Dieu est révélée, alors il donnera les moyens pour la faire. Et c'est lui qui porte alors l'œuvre. Parce qu'on se rend compte, quand on marche comme ça, que ce n'est pas nous qui œuvrons. En fait, nous n'avons rien à faire. Nous avons juste à être membres d'un corps dont la tête est Jésus, et c'est Jésus qui décide. Donc, comme je crois l'avoir déjà dit, il n'y en a qu'un seul qui œuvre en fait, c'est Jésus. C'est comme ça que l'on sait être un serviteur inutile, quand on a compris que tout ce qui vient de nous-mêmes n'a aucune valeur devant Dieu. Vous voyez ? Donc voilà, pour articuler la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme, il faut garder la parole. Mais si on n'accentue qu'une seule de ces deux vérités, en fait, on tombe soit dans la passivité, soit dans l'activisme. Voilà, et dans les deux cas, on passe à côté de l'essentiel. Donc, ne pas garder la parole se traduit toujours par la même chose, hein, c'est une pensée binaire. Il y a nous on a compris, on a la bonne manière de comprendre, on a la bonne doctrine, on a les bonnes pratiques, et puis il y a les autres, vous comprenez, ils ne sont pas éclairés. Ils n'ont pas compris. Ils ne sont pas éclairés comme nous. Allons un cran encore plus loin. Là, je m'adresse aux frères. Qu'est-ce que nous recherchons? La parole nous le dit. 1 Corinthiens 1. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Je développe un peu. Les Grecs cherchent la sagesse. Non, il y a tout un pan du christianisme qui est à la recherche de la pure doctrine, de l'orthodoxie. Et la connaissance que l'on impose à l'Église devient un moyen de contrôle. Parce que si tu ne te plies pas à ma manière de penser, dira tel ou tel responsable, voilà, il y a un problème de communion, est-ce que tu peux rester dans l'Église ? On impose à l'autre sa manière de comprendre l'Écriture. Sa confession de foi, sa théologie, son schéma théologique. Hein? On s'est mis soi-même une paire de lunettes sur le nez, et ensuite on impose à tout le monde de voir de la même manière que nous, avec la même paire de lunettes. Ça, c'est une des manières de prendre le pouvoir sur l'assemblée. Et comme je l'ai dit, cette manière-là se fait toujours de la même manière. On prend une partie de l'Écriture et on oublie la partie de l'Écriture qui va équilibrer les choses. Et à partir de là, on part dans un extrême ou on part dans l'autre. Donc là encore, si on interrogeait les différentes églises, chacun dira que non, nous avons la bonne confession de foi, nous avons la bonne théologie, nous avons la bonne tradition. Donc il y a un tropisme, il y a un biais qui fait que nous pensons toujours être dans la vérité et que ce sont les autres qui sont à côté de la plaque. C'est plus ou moins, vous voyez, on se fait les juges et on se met au centre, plutôt que la parole de Dieu. Mais j'ai dit également, les Juifs cherchent les miracles. Alors ça, c'est intéressant parce que, là encore, il y a un problème de logique. Je prends Marc 16. Dans Marc 16, il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il y aura des miracles. Vous voyez? Donc là encore, si j'ai cru, il doit y avoir des miracles. Proposition logique équivalente. Si je ne vois pas les miracles, est-ce que j'ai vraiment cru? Ça, c'est ce que j'ai connu dans le monde pentecôtiste. On oublie une chose, ou on en oublie même plusieurs, qui sont pourtant citées dans l'Écriture. D'abord, jamais un seul passage ne doit être pris en lui-même. Tout est basé sur la base de deux ou trois témoins. Où trouve-t-on l'application de Marc 16? Je ne connais à ma connaissance qu'un seul passage dans l'Écriture où cela est accompli. C'est dans Acte 8, lorsque Philippe prêche en Samarie. Et là, il est dit effectivement que les démons vont être chassés, il y a des signes et des miracles qui ont lieu, et la puissance de la parole est proclamée. Mais dans le contexte de Samarie. Beaucoup plus embêtant. Les faux disciples sont capables de faire des miracles. Matthieu 7. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et que leur répond Jésus? Je ne vous connais pas, vous ouvriers d'iniquité. Je ne vous connais pas. Donc vous voyez que faire des miracles ne prouve pas grand-chose. On peut en faire alors qu'on n'est pas disciple de Jésus. Ça va même encore plus loin. La fin des temps, nous lit le livre de l'Apocalypse, est caractérisée par le faux prophétisme qui essaye d'imposer son autorité par des miracles. Hein? Le faux prophète, dans le livre de l'Apocalypse, fait des miracles. Vous regarderez Apocalypse 13, 16, 19 et 20. Mais également Deutéronome 13, là aussi que j'ai déjà cité, mais pour moi, est, à cause des circonstances dont je vais parler après, est devenu très 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 prégnant dans ma vie. Si un prophète ou un songeur de songes vous annonce un signe, que le signe s'accomplit, et qu'il dise ensuite « Allons vers d'autres dieux que vos pères n'ont pas connus », alors, vous saurez que c'est un faux prophète. Oui. Il a annoncé un signe, un prodige, un miracle. Le signe, prodige et miracle s'est accompli. Là, on peut dire « Alléluia !» Dieu a fait un miracle. Mais ensuite, il est dit « Allons vers d'autres dieux que vos pères n'ont pas connus. » Et c'est là, il est dit « Ah, ça y est, je sais que c'est un faux prophète. » C'est pas au fait qu'il fasse un miracle ou pas, un signe ou pas, un prodige ou pas. C'est quel est le Jésus dont il va me parler juste derrière. C'est ça, en fait, qui permet de discerner si on a affaire à un faux prophète ou pas. Je vous rappelle que dans ce contexte-là, le diable apparaît toujours sous un ange de lumière, 2 Corinthiens 11, et que cet ange de lumière est capable de faire des miracles. Il y en a un qui est particulièrement bien connu actuellement, et depuis longtemps, c'est à Lourdes. Je suis désolé, mais c'est un ange de lumière qui apparaît, qui se fait appeler Marie, et qui fait des miracles. Pour asseoir la crédibilité de qui? De Jésus? Non, de Marie. Et derrière Marie, il y a l'ange de lumière. Et l'ange de lumière, c'est Satan lui-même. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc vous voyez que la question des miracles est très ambiguë. Le miracle en tant que tel ne prouve rien. Et on peut aller encore un camp plus loin. Si je vous disais que pour dimanche prochain, j'organise une réunion où il va y avoir des signes, des prodiges et des miracles, sachez que je suis un faux prophète. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tordre le bras de Dieu. On ne peut pas forcer l'esprit et dire d'avance ce que l'esprit va faire. Je vous rappelle que dans la parole, on ne prie pas à l'esprit, on ne s'adresse pas à l'esprit, on lui donne encore moins des ordres en annonçant d'avance ce qu'il va faire. C'est pas comme ça que ça marche. Quand on cherche à manipuler les esprits, ça a un nom. Ça s'appelle la sorcellerie. Donc, quelle est la position de la parole là-dessus? C'est l'esprit qui prend l'initiative, qui révèle, et ce qu'il dit, il le fait. Non, on ne va pas dire, tiens, il va y avoir des miracles ce soir, et puis il ne s'est rien passé. Ben oui, mais c'est votre manque de foi. C'est parce que vous n'avez pas la foi. C'est de votre faute. Non. Si l'esprit révèle, l'esprit fait. Il n'y a pas d'échappatoire par rapport à ça. Bon, je connais un frère en Jésus, et là, ce n'est pas une métaphore pour parler de moi. Je connais un frère très très proche que le Seigneur a utilisé pour de grandes choses. Je ne vais pas développer le sujet. Mais je lui ai demandé précisément, mais comment ça se passe? Il me répond, mais c'est très simple, c'est sur révélation. Je n'ai aucune initiative là-dedans, c'est juste la soumission et l'obéissance. Et puisque Dieu a révélé, Dieu le fait. Il n'y a pas d'échappatoire, ça ne dépend même pas de la foi de celui qui est en face. Quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Vous voyez? Sinon, on ridicule Dieu, on ridiculise Dieu. Donc ça, c'est important. J'ai presque terminé, hein. Mais c'est un point qui est important. Une petite tranche de vie, là, un petit peu de témoignage. Puisque j'ai maintenant 38 ans de marche avec le Seigneur dans le compteur. Ça commence à faire pas mal, 38 ans. Hein? Qu'est-ce que j'ai vu pendant ces 38 ans? Donc là, certains vont reconnaître un peu de quoi je parle. J'ai connu tel homme de Dieu. Je ne mets pas forcément des guillemets. Je ne veux pas juger. Je ne suis pas là pour dire que la personne est sauvée ou pas. Je ne suis même pas là pour dire si Dieu l'a jugé ou pas. Mais comme le dit Hébreux 13, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie. Donc la fin de la vie d'un conducteur n'est pas anodine. Voyez? Et donc j'ai connu un premier homme de Dieu, et à nouveau, guillemets ou pas, je ne veux pas me prononcer en termes de jugement. Et donc Marc va savoir de qui je parle. Qui est allé en Afrique pour recevoir là-bas le titre d'apôtre des nations. Vous voyez? Il fallait être apôtre des nations. Et qui, dans l'assemblée, ça résonne encore dans mon oreille, cherchait l'onction royale. C'est dans le milieu pentecôtiste, comme on l'a dit, on cherche souvent le réveil. Donc il faut une onction particulière. Voilà. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais pas entrer là-dedans. Et quelques années après, cet homme-là est mort d'une maladie. Contre laquelle, voilà, alors qu'il croyait en la guérison, et je crois en la guérison, mais là, cet homme est mort de maladie, rien n'y a pu faire, aucune prière n'a pu le guérir. Lui qui était apôtre des nations et qui cherchait l'onction royale. Alors à nouveau, je précise bien, hein, il y a des véritables enfants de Dieu qui meurent également de maladie. Mais là, comme l'invite Hébreux 13, on parle surtout des conducteurs, ceux qui sont des exemples. Et parmi les conducteurs, il peut y en avoir qui meurent également de maladie. C'est pour ça que je ne prononce pas, je cite un fait. Apôtre des nations, onction royale, mais mort d'une maladie qui a laissé toute l'Église en pan. J'ai connu un autre homme de Dieu, promoteur en France d'un réveil. Et donc, voilà, avec toute l'autorité qu'il y a à être le représentant et le porte-parole d'un réveil. Et pareil, sa fin a été particulièrement triste et dégradante pour ceux qui connaissent cette histoire. J'ai été confronté de près, hein, par le biais de sa fille. La fin a été triste et dégradante. J'en connais encore un autre. Et là, j'aurais dû me méfier. Il s'est présenté à moi comme ayant le discernement des esprits. C'est extrêmement problématique quand quelqu'un vient à vous avec ses titres. En fait, il y a une volonté d'emblée de prendre le pouvoir et autorité sur l'autre. Les véritables dons du Seigneur se manifestent d'eux-mêmes. Il n'y a pas besoin qu'on les proclame. Et ce frère-là, est-il frère, ne l'est-il pas, ça appartient à Dieu, est à l'origine de ce qui a été mon expérience chrétienne la plus douloureuse. Vraiment, la plus pénible. La plus... Et pourtant, la plus libératrice également. Quand on s'attache au Seigneur, change le mal en bien. Et ça, c'est vrai. Quand on s'attache au Seigneur, il change le mal en bien. Et donc voilà, le problème de l'homme, c'est qu'il cherche les titres, il cherche à se faire valoir, on cherche à contrôler l'esprit, on cherche à s'imposer. Que dit la parole ? Éphésiens 5, « Soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est là le point important. « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Il y a une forme de sacerdoce universel et d'horizontalité dans l'Église qui permet, dans la soumission les uns aux autres, à l'Esprit de lever les dons et les ministères dans le corps. Donc ça me gêne beaucoup, et je pense à un exemple proche de chez moi, où des chrétiens se rassemblent et commencent à penser Église, et la première chose qu'ils veulent faire, c'est quoi ? Mettre en place le ministère. Voilà. On commence par ça, alors que ça devrait être la fin du processus. Une fois que l'Assemblée apprend à partager, apprend à écouter l'Esprit, alors l'Esprit va commencer, 1 Corinthiens 12, tiens, on va mettre telle verte, là je vois tel besoin, on va mettre tel besoin, on va mettre tel don, on va mettre tel ministère. C'est l'Esprit qui a l'initiative des dons et des ministères dans l'Église. Mais là, c'est étonnant que de commencer par, allez, on va nommer les responsables. Voilà, ça montre déjà la conception que l'on a de l'Église. Une Église, c'est un bâtiment et des responsables. Non, l'Église, c'est une assemblée de croyants, se soumettant les uns aux autres. Et c'est dans cette soumission les uns aux autres que l'Esprit peut commencer à lever des dons et des ministères. Et ça me ramène au point de départ, et j'arrête avec là. Le sang et l'eau. D'où viennent tous ces problèmes, d'où viennent tous ces dysfonctionnements, d'où viennent tous ces déséquilibres dans l'usage de la parole de Dieu ? Le sang et l'eau. Le sang de la repentance, et l'eau de la puissance de l'esprit de vie. C'est pas d'abord une puissance pour faire des miracles, c'est la puissance de la vie. C'est la vie qui nous transforme. Rien ne peut stopper la vie. Vous arrêtez d'entretenir une baraque, elle retourne à la nature. La vie prend le dessus. Les racines des arbres font écrouler la baraque. Les herbes commencent à pousser dessus, et à la fin, vous ne savez même plus que là, il y avait une bâtisse. C'est la puissance de la vie. Cette puissance-là, rien ne peut la stopper, mais elle prend son temps. Et on aimerait tellement aller vite. Comme je l'ai dit, les jeunes, on veut les lancer vite. Et ensuite, ils s'épuisent. Je suis en train de lire un livre en ce moment que l'on m'a prêté. C'est une sœur qui m'a prêté ce livre en me demandant ce que j'en pensais. C'est un livre d'un dénommé Peter Scazzero. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le livre s'appelle « Devenir un disciple émotionnellement sain ». Alors déjà, le titre me gêne beaucoup. Parce que j'aurais préféré devenir un disciple spirituellement saint. Et en lisant le livre, donc il note, comme j'essaie de le faire aussi, l'état de l'Église. Hein, on a accepté Jésus comme sauveur, mais on ne voit pas les chrétiens l'accepter comme Seigneur. On voit les chrétiens, voilà, on voit des vies qui n'avancent pas. Et il fait un descriptif de ça, ce qui est parfaitement juste. Et plus je lis le livre, plus je me rends compte que le problème, il est au départ de la vie chrétienne. Il est au départ de la vie chrétienne, c'est-à-dire dans la conception même de ce qu'est la nouvelle naissance. Le passage de la mort à la vie. À nouveau, on veut l'eau vive, mais on ne veut pas le sang de la croix. On veut l'esprit de la Pentecôte, mais on ne veut pas la croix. Tout le problème, il est là. Alors on découpe Jésus en morceaux. Ah, mais si tu l'as accepté comme sauveur, tu es sauvé. Et puis bon, pour la dimension Seigneur, on verra après. Hein. Mais pareil, si tu as été cru en Jésus, tu es justifié. Pour ce qui est de la sanctification, on verra après. Alors que Paul dit qu'on ne peut pas séparer les deux. En Corinthiens 1:30. Jésus a été fait pour nous, justice et sainteté. On ne peut pas le couper en deux. On ne peut pas séparer le sauveur du Seigneur. On ne peut pas séparer la justice de la sainteté. Vous voyez ? Alors évidemment, on a une bonne théologie pour arriver à couper Jésus en morceaux. Et derrière ça, il y a le refus de la croix, le refus de la mort, le sang, qui pourtant débouche sur la vie, l'eau. Ce sont les passages qui ont été lus. Qui c'est qui a lu ça? Je crois que c'est toi, Monique, qui a lu ce passage. Si le grain de blé ne meurt, voilà. Et tu as cité plusieurs passages qui montraient très très bien que s'il n'y a pas l'œuvre de la mort à soi, il ne peut pas y avoir l'œuvre de la vie. Donc on court-circuit l'œuvre de la mort, on fait de la nouvelle naissance quelque chose d'instantané qui nous tomberait dessus, et non pas le fruit de la traversée du désert. Et à partir de là, ben, on s'étonne que l'Église n'avance pas, on s'étonne que les vies n'avancent pas. Donc voilà, dans tout cela, ce que je constate pour ma part, c'est qu'on refuse la croix, c'est-à-dire on refuse le désert. Je vous rappelle que la croix que Moïse a érigée avec le serpent d'airain était érigée dans le désert. Le serpent d'airain, donc la croix, n'était pas en Égypte, et ce n'était pas en Canaan. Hein? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, c'est qu'il dit dans Jean 3, c'est dans le désert. Et ça, le désert, on ne veut pas. On ne veut pas, et là je parle aux hommes, hein? On ne veut pas parce que c'est, comme je l'ai dit, la faim, la soif, le dénuement, le dépouillement. C'est la confrontation avec ce qu'est notre chair. C'est le lieu de la repentance. Mais c'est également, si on l'accepte, le lieu de l'union avec Jésus et de l'attachement avec Jésus. Et c'est le lieu également où on rencontre le serpent. Le serpent est dans le désert. Et comme il a tenté Jésus 3 fois, il nous tente constamment. Et je parle à nouveau aux frères en particulier. Il nous tente constamment en tordant la parole, en ajoutant et en retranchant, voilà, de telle manière qu'on reste à tourner en rond dans le désert et qu'on ne sorte surtout pas le combattre sur le terrain de Canaan. Donc on aime le sang, ça oui, c'est-à-dire, je le tourne d'une autre manière, Jésus est mort pour tous et a porté le péché du monde entier. Là encore, si je me limitais à cette parole-là, ben, ça veut dire que tous seraient sauvés. Non, tous ne sont pas sauvés. Et pourtant, Jésus a porté le péché de tous. Donc, le salut, ce n'est pas Jésus a porté mes péchés. Hein, il y a des chrétiens qui passent toute leur vie, je pêche, je demande pardon, je pêche, je demande pardon, mais la vie ne se transforme jamais. On a le sang, on demande pardon, Jésus a porté le péché du monde, mais il n'y a pas l'eau de la vie, il n'y a pas l'eau vive qui sort du sein de Jésus et dont on boit. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Et donc, je le répète, la femme est l'avenir de l'homme, et la femme est ici et maintenant, si elle marche avec le Seigneur, la prophétesse de ce que devrait être la vie de l'homme à l'égard du Messie. Donc, qu'en est-il pour nous, les frères, nous les hommes? Est-ce que c'est notre prier, une priorité, que d'apprendre cette soumission, cette exclusivité à l'égard de Jésus, cet être en Jésus, puisque c'est de là que découlera tout le reste. Que le Seigneur bénisse sa parole.